C'est une joke. C'est une discussion où on met nos tripes à la table. Des sujets qui font réagir le Québec, qui rassemblent, parfois qui divisent.
Hashtag sans filtre.
Denis Gravel, salut!
Le Pit Stop.
Hello! Bon vendredi, mon ami. Merci d'être là dorénavant les vendredis. C'est le fun.
Ma thérapie est finie. Il me laisse sortir le vendredi matin maintenant.
Bravo! Ouais, c'est ça. Mais là, t'es nouvellement célibataire. Ta thérapie est finie. Y a-tu un lien?
Je suis en mode transition.
Incroyable, incroyable. Hey, écoute, l'entente avec Québec et Churchill Falls, là, me semble que ça sert bien la coalition Avenir Québec, on va se le dire. Mais ça se peut-tu que, comme il y a eu intervention du gouvernement du Parti libéral du Canada, que Mark Carney ait favorisé peut-être un peu plus la CAQ que le Parti libéral du Québec? Ça pourrait-tu être une belle avenue?
Ben, c'est la deuxième fois là qu'il semble y avoir des alliances entre le gouvernement de la CAQ et le gouvernement de Mark Carney. Quand on a fait de grandes annonces sur le transport, il semble y avoir une alliance peut-être fragile, mais présente actuellement entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la CAQ. C'est-tu la menace souverainiste qui fait en sorte que ces gens-là se sont alignés ensemble? Ben là, à partir de là, votre interprétation vaut la mienne.
Paul Saint-Pierre Plamondon qui semble pas nécessairement triper sur le fameux projet de TGV. Paul Saint-Pierre Plamondon qui est fâché de l'entente entre Churchill Falls et puis Québec ou Hydro-Québec, certains diront. Peut-être que Mark Carney, effectivement, va se rapprocher un peu plus de la coalition Avenir Québec avec Christine Fréchette qu'il le ferait avec un Paul Saint-Pierre Plamondon ou encore le Parti libéral du Québec qui n'a aucune chance de remporter aux prochaines élections. Là.
C'est peut-être pour ça, là, je veux dire, on choisit ses alliés en fonction du pouvoir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris en regardant plusieurs épisodes de Game of Thrones. Peut-être qu'on serait plus près des libéraux si les libéraux étaient plus près d'une victoire. Mais la réalité, c'est que présentement, on semble au fédéral croire aux chances du grand retour de la CAQ, ce qui n'est pas nécessairement un mauvais pari quand on connaît l'hésitation et l'insécurité chronique des Québécois. Il va falloir regarder comme faut qu'est-ce qu'il y a dans cette entente-là de Churchill Falls aussi, parce que par défaut, on va la comparer à celle qui était sur la table il y a 2 ans avec François Legault, parce que le gouvernement fédéral a autant intérêt à séduire les gens de Terre-Neuve que les gens du Québec. Puis c'est sûr qu'on perd à cette entente-là dans une certaine mesure, parce que lorsqu'on a créé cette entente-là à une certaine époque, ben comment dire, cette entente-là était tellement en notre faveur que c'est probablement là qu'on a commencé à faire des jokes de Newfie dans le temps-là.
Le Québec gagne en capacité électrique avec cette entente-là. C'est la pièce maîtresse du plan de développement d'Hydro-Québec jusqu'à 2050. En sachant que le PQ veut développer l'énergie verte, trouves-tu qu'ils se mettent un peu le doigt dans l'œil en n'étant aussi, virulent contre cette entente-là?
Ben, plus Paul Saint-Pierre Plamondon se fâche, moins bien il paraît. Puis ça, c'est vrai sur tous les dossiers. C'est vrai sur l'immigration. Pas bien paru non plus dans le dossier, justement, du train qui relierait le Canada d'un océan à l'autre, le train à grande vitesse. Tous ces dossiers-là où il perd un peu les pédales, je trouve que ça rapporte par défaut à la CAQ et au gouvernement. C'est une stratégie qui rapporte jusqu'à maintenant de faire sortir Paul Saint-Pierre Plamondon de ses gonds et de nous montrer peut-être son côté. Puis là, j'utilise le mot de façon très libre, là, mais son côté le plus conservateur dans une certaine mesure, de dire, ben nous autres, voici nos principes, puis on ne déroge pas à ces principes-là. Et je trouve que dans des dossiers de développement, si le gouvernement actuel est capable de convaincre, par exemple, que l'entente de Churchill Falls, c'était la meilleure entente qu'on pouvait avoir pour le Québec, si le gouvernement actuel est capable de convaincre que les dossiers canadiens, on est capable de les négocier à notre avantage au lieu de confronter le Canada, ça peut rapporter beaucoup de points dans un Québec, rappelons-le, où il y a 50% d'indécis actuellement.
En effet, mais chose certaine, avec François Legault, la CAQ avait fait le plein d'électeurs péquistes. Avec Christine Fréchette, la façon qu'elle se comporte, c'est les libéraux qu'on vise.
Oui, puis les libéraux, j'écoutais votre entrevue il y a quelques minutes à peine. Je suis d'accord avec vous autres. À partir du moment où l'île de Montréal est gagnée, Charles Milliard devrait se concentrer sur les régions, sur la région de Québec particulièrement qui est prenable parce qu'on a une lutte à 3 et peut-être même à 4. Elle est gagnée, l'île de Montréal. Perds pas de temps là, puis fais le tour de la province, puis arrête même, pas de te faire voir.
Avant même qu'il devienne chef du Parti libéral du Québec, il était ici à l'antenne dans Mars au soir et il me disait exactement ce que je lui ai répété. Et là, il y a un discours qui est totalement différent. Si je peux faire un parallèle avec le hockey, là, on voudrait avoir au Parti libéral... Je dis « on », je m'exclus, mais on voudrait avoir au Parti libéral du Québec pour réveiller ce parti-là, un genre de Brad Marchand, quelqu'un qui est capable d'aller dans les coins, la sortir, la mettre dedans, faire des passes, être méchant, envoyer des bitcheries. Ben là, on a un genre de Max Pacioretty qui veut pas... Il est là! Il veut pas trop se mêler, il est talentueux, il va te la mettre dedans une fois de temps en temps, mais demande-y pas d'aller chercher ça dans les coins, il a peur.
Ben, posons-nous la question, le meilleur parti libéral des trois dernières années, c'est-tu celui de Charles Milliard? C'est-tu celui à mon oncle Pablo? Ou c'est le bout où il n'y a pas eu de vrai chef? Moi, j'ai la réponse. Ben, c'est le bout où il n'y a pas eu de vrai chef. Ouais, là, t'en avais des bras de marchand, puis il était tout le temps sur les ondes avec vous autres, puis j'ai trouvé bon les meilleurs.
On s'ennuie de Marc Tanguay?
Ben
Marc
oui.
Marc Tanguay, mon chef d'éragie.
Et voilà. Et voilà, c'est ces gens-là qu'on...
Faut entrer Marois Risky là-dedans également.
Vous avez raison. Tu viens de nommer le premier trio du Parti libéral, puis c'est des gens qu'on ne voit plus ou à peu près plus. Le meilleur Parti libéral qu'on a vu, à tout le moins dans la région de Québec, pour séduire les électeurs, c'est celui qui avait juste un chef intérimaire.
Alors, c'est pour l'instant, du moins, c'est pas ce à quoi je m'attendais de la part du Parti libéral du Québec, mais surtout de Charles Milliard, qui était mon préféré. Là, lorsqu'on a entendu parler pour la première fois de notre vie de Charles Milliard à Québec, j'avais jasé avec des gens de Trois-Rivières, puis ils m'ont dit « Yann, ce gars-là gagne à être connu, il fait une maudite belle job, s'exprime bien ». J'avais juste oublié de poser la question « C'est un Brad Marchand ou c'est un genre de Max Pacioretty?
» Mais y a-tu moyen de savoir ça avant de le lancer dans l'arène? Tu sais, y a des gens qui figent quand tu les envoies dans le creux de la piscine, puis même s'ils savent comment nager, ben l'instinct de survie ou l'instinct de panique embarque, puis sous les projecteurs, sont pas capables de réagir sous la pression. Est-ce que c'est ça qui arrive présentement à Charles Milliard? Est-ce qu'il est mal conseillé? Je sais pas, mais c'est vraiment le parti le plus invisible en ce début de campagne, alors qu'hier, le Parti conservateur a commencé à dropper ses grosses cartes, alors que le Parti québécois est quand même assez présent aussi, alors que la CAQ a commencé sa campagne l'année passée. À partir au début de la campagne, on part trop tard. Parlez-en à sa mamade.
Puis Éric Duhem a frappé un coup de circuit hier avec sa promesse de couper 47 milliards de dollars sur 5 ans sans toucher aux services publics. Bon, ça reste à être démontré, à savoir si c'est faisable. Il va y avoir un cadre financier, mais tu sais, on en parlait en début de semaine, je trouvais ça un peu décevant de la part du Parti conservateur du Québec de ne pas arriver avec ce genre d'idée-là. Bien là, moi, même si je ne suis pas tout à fait convaincu, puis je gagne à être convaincu là-dedans, bien j'ai quelque chose à me mettre sous la dent. Ah, OK, tabarouette, ils veulent sabrer dans l'État par attrition, donc c'est pas personne qui va être crissé dehors. C'est quand les gens vont partir à retraite, ben, s'il y a deux retraités qui s'en vont, on va juste le remplacer par un seul fonctionnaire ou trois fonctionnaires pour un nouveau qui arrive, qui sait. Mais ça, je trouve ça pertinent. Mais en même temps, Denis, 2017, François Legault, qu'est-ce qu'il promettait? C'est tannant.
Hey, là, tu me remplaces, par exemple. D'habitude, c'est moi le cynique qui dit que ça peut être de la pensée magique comme ça l'a déjà été. Puis en même temps, moi, je vais donner le point aux conservateurs. C'est que là, il y a un chiffre, puis c'est aux autres partis de démonter ce chiffre-là, mais aussi de se placer dans cet enjeu-là qui devrait être l'enjeu numéro un des conservateurs depuis le début, peut-être même le seul enjeu de dire « Nous autres, on va là pour faire le ménage des finances publiques. » Si le chiffre qu'Adrien Pouliot et Éric Duhem ont lancé hier, il est exagéré, ben c'est aux libéraux de faire du millage là-dessus puis de dire « Nous autres, on va couper du deux tiers, mais regardez comment nos chiffres sont détaillés puis comment on va y arriver. » Et encore une fois, ben le défi numéro un du Parti conservateur, c'est de se crédibiliser au-delà de la base partisane. Il faut faire attention aux excès de confiance. Quand j'ai vu Adrien Pouliot en point de presse hier partir à rire avec le menton dans les airs à dire « C'est sûr qu'on coupe le fond vert. C'est pas de même que tu vas chercher des indécis. Tu fais triper ta base. Mais l'indécis, lui, dans cette arrogance-là, il voit quelque chose qui ne le rassure pas. Fait qu'il faut faire attention comment on joue nos cartes au sein du Parti conservateur. Mais hier, moi, j'avais hâte là, à cette journée-là. J'ai l'impression que la rondelle est tombée sur la glace hier quand les conservateurs sont arrivés avec leur annonce. Maintenant, c'est aux autres partis de répliquer, puis c'est aux autres partis de s'afficher aussi à savoir, vous autres, faites-vous du ménage ou vous en faites pas? Puis si vous en faites, c'est combien de milliards que vous coupez, vous autres, t'sais?
Exact. Autre sujet, Denis, on entend souvent l'école, c'est gratis. Il n'y a jamais rien de gratis parmi tous les services gouvernementaux qui sont offerts. C'est à la gang, on paye des impôts, puis on veut former nos jeunes étudiants, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep ou encore à l'université. Les coûts augmentent au fur et à mesure que tu grimpes là, au cégep et à l'université, mais n'en demeure pas moins que l'école, ça coûte quelque chose et on a l'impression que l'école, c'est gratuit. Là, on se rend compte que, bon, pour renvoyer nos enfants à l'école, ben, ça prend des lunchs, ça prend du linge, ça prend du matériel scolaire. Je lisais ce matin que les organismes d'aide pour ce qui est justement des rentrées scolaires croulent sous la demande actuellement. Et ce qu'on nous dit, là, quand on jase avec des gens qui sont directement en théâtre de guerre, c'est que ça fait déjà quelques années que c'est commencé, puis année après année, on demande de plus en plus d'aide. Est-ce que le gouvernement va se pencher là-dessus, à savoir de un, pour quelles raisons les gens demandent autant d'aide? C'est peut-être parce qu'on croule sous l'endettement, là.
Ben écoute, on le voit, le coût de la vie a tellement monté sur les choses qu'on consomme régulièrement dans les dernières années, puis on nous parle d'une nouvelle pauvreté qui atteint la classe moyenne de plus en plus, puis d'un autre côté, on est une société qui consomme énormément, puis là, je veux faire attention parce que je veux pas nécessairement rentrer dans les préjugés, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui demandent de l'aide, qui ont trois services de streaming à la maison, le Spotify familial, puis qui inscrivent leurs enfants à l'école privée. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, c'est probablement un pourcentage minime, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent continuer d'accéder aux choses qu'on peut qualifier de luxe, entre guillemets, mais qui n'arrivent pas à la fin de la semaine parce qu'ils ne sont pas capables de faire un budget puis ils ne sont pas capables de faire des concessions. Puis je vais prendre l'exemple cette semaine de la famille qui était en une du Journal de Québec pour nous dire que ça lui coûtait une fortune d'envoyer leurs enfants, trois petits points, à l'école privée, dans un programme sport-études, et sur la photo où il disait que ça coûtait cher, il y avait 9 polos qui était l'uniforme d'école. Je veux dire, rendu là, t'as-tu vraiment besoin de 9 polos? Moi, je n'achetais 2 à mon gars, puis on va les laver plus souvent. Là, je veux dire, tu sais, il y a des gens qui ont pas appris à faire un budget, qui ont pas appris à couper. Tu sais, Disney Plus, là, c'est moins important que des uniformes scolaires si tu veux que tes enfants aillent à l'école privée. Fait qu'il y a ce volet-là, mais il y a aussi la nouvelle pauvreté qui touche de plus en plus de familles. Puis ça, je remets pas ça en doute, mais ouais, pas du tout.
Denis, moi j'aime ça parler des vraies affaires, là. Il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, beaucoup de réfugiés qui sont issus de d'autres pays qui viennent s'établir ici, qui n'ont pas les ressources nécessaires pour s'acheter ce genre d'équipement-là pour envoyer les enfants à l'école. Fait que j'ai l'impression que le gouvernement, ils en ont fait rentrer beaucoup, mais le comment bien les intégrer, ils ont peut-être erré dans ce dossier-là, là.
Moi, je pense qu'on devrait suivre l'exemple de plusieurs petites municipalités qui ont bâti des beaux programmes d'intégration. On devrait peut-être lâcher Montréal puis éparpiller un peu plus ces immigrants-là qui semblent mieux s'intégrer dans les petites communautés que dans les grandes communautés où ils se ramassent en gang, en ghetto, puis ainsi de suite. Puis c'est comme ça là que tu crées de l'affrontement, de la tension, que les gens se replient sur eux-mêmes, autant les gens qui sont là depuis longtemps que les gens qui viennent d'arriver. Il y a quelques petites communautés qu'on devrait regarder de plus près. Je pense que même, tu sais, on a déjà parlé en mal, là, mais Huntington est rendu avec un programme comme celui-là qui fonctionne bien. Rivière-du-Loup a un programme comme celui-là depuis une dizaine d'années qui fonctionne bien aussi. On devrait prendre ces exemples-là puis les étendre à grandeur du Québec.
Dans le cas du scolaire, faut pas oublier la partie importante de l'école à 3 vitesses, et je m'explique. Il y a de plus en plus de parents, même si la ceinture est serrée, qui vont placer un de leurs enfants dans un programme particulier parce qu'ils veulent pas qu'il aille au régulier. Parce que le régulier, c'est rendu le cheminement particulier. Donc, par exemple, nous, on a placé notre Édouard dans le programme de football. Ça nous coûte plus cher. On serre la ceinture. Mais il n'était pas question qu'il aille au régulier. Puis les résultats sont là, là. Il a passé son secondaire 4. Puis on est super heureux avec des résultats, ma foi, plus élevés que ce qu'il nous avait démontré dans les trois premières années de secondaire. Puis,
tu amènes tellement un bon point, Jeff, parce que maintenant, on a énormément d'alternatives qui font en sorte que tu prends un taux de décrochage masculin qui était immense au secondaire, puis là, tu as des alternatives, puis toi, tu vois ces alternatives-là. Moi, mon plus grand, je souhaite que le hockey fasse en sorte qu'il s'intéresse davantage à l'école puis à ses défis scolaires. Puis c'est sûr que dans ce contexte-là, qu'il aille dans un programme sportif, je me dis, je lui donne un outil supplémentaire pour lui permettre de passer à travers son secondaire. Mais c'est un outil qui coûte de l'argent.
Ben oui.
Puis c'est plus d'investissement, mais il faut que tu réussisses à faire tes coupures puis à faire tes sacrifices ailleurs. Puis je dis pas que c'est facile. Là.
Non,
c'est vraiment pas facile. Là.
Je parlais avec mon plus vieux hier. Qui est rendu à Chicoutimi, qui a eu ses premières pratiques de foot, puis lui, il est arrivé au cégep, puis ça l'a frappé d'en face. Il a dit « Hey, j'ai plus rien à quoi me rattacher. » Il avait jamais poché de cours, il en a poché. Fait que là, il a dit « Regardez mon plan, je m'en vais à Chicoutimi, je m'en vais jouer au football, je le sais que je vais faire mon deck de cette façon-là. » Puis le sport rattache beaucoup les garçons. Ouais.
Max, on va te le demander à toi. En moyenne, un parent paye combien pour la rentrée scolaire de son enfant?
Ça doit être un 250,
puis ça inclut quoi, ça? Le matériel scolaire?
Ouais, okay. Mais là, si t'inclus, mettons, des souliers...
Ouais.
C'est 300.
Une paire de souliers que ça prend ou deux?
Ben, une pour l'école, une pour le gymnase.
Ouais, puis une pour l'extérieur?
Ben, l'extérieur, t'es déjà tes souliers d'extérieur dans la vie.
Ouais, c'est ça, mais quand tu rentres dans la classe, tu peux pas mettre les souliers
c'est ça
que je t'ai pris.
Okay. Mais t'es déjà à base, tes souliers d'extérieur.
Les espadrilles?
Ouais, c'est ça. Souliers de gym, souliers d'en dedans.
Parfait. En moyenne, tu penses que c'est 250$?
Moi, j'ai 300.
Le matériel scolaire?
Ouais, 300.
Le sac à dos?
300.
700.
Toi, tu y vas. 700, Denis, Mac, Jeff?
Ouais, je vais aller dans ce coin-là, 700. Moi, c'est la mère des enfants qui fait les
factures. Pour un enfant? En moyenne?
Il me semble que ça me coûte pas mal.
En moyenne au Québec, moi, ça m'a coûté 710$. En moyenne au Québec, c'est 750$
ouais,
par
c'est ça,
enfant.
Ouais.
Fait que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer ça, bien entendu.
Juste les livres. Je parle pas des cahiers qu'on va chercher chez Club Jouet et tout ça, mais les livres scolaires en tant que tels, souvent, c'est là que le bas blesse pour plusieurs. Dépendamment des écoles où tu vas, ils vont te demander les spikes sur les espadrilles pour aller jouer sur certains terrains. Il y en a qui te permettent une paire d'espadrilles. Tant qu'elle laisse pas de marque sur le gymnase, tu peux te promener avec en classe, mais il y en a d'autres que ça prend des souliers d'un corridor, une paire de souliers extérieurs, les spikes pour les terrains.
Exact.
Tu sais, il y a de plus en plus, il y a énormément de variétés, mais fondamentalement, il y a des choses qui coûtent cher. Les livres scolaires, les manuels scolaires, les lectures imposées, ça c'est sûr que ça monte vite, on est surpris des
fois. La mère de mes enfants est exceptionnelle, elle fait tout pour me faire sauver de l'argent, ce que je trouve fantastique. Ce qu'elle fait, c'est que mettons qu'elle a acheté le stock, dans quelques semaines, ce stock-là qui n'aura pas été vendu va être mis en rabais et elle va s'arranger pour en acheter d'autres pour l'année suivante. On s'en est souvent sorti comme ça. Tu sais, des liquidations de fin de saison, là, elle achète ça, puis ben, ça sert la saison suivante. C'est sûr que pour le linge, tu achètes une taille un peu plus grande parce que les enfants, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Là. Mais elle a toujours fait ça, puis ça nous a toujours aidé là, à arriver dans un budget qui est somme toute correct là, pour deux personnes qui travaillent.
On fait notre possible, on n'a pas le choix parce que, contrairement à ce que certains pensent, on peut pas régler tous les problèmes de pauvreté en donnant des fausses Rolex à tout le monde.
Attends un peu. L'article de la presse mentionne que Rolex dit que Julien Duguay de Médusa vend des montres contrefaites. Et Julien Duguay de Médusa dit que Rolex tient à son produit et lorsqu'on pourrait ajouter, exemple, des diamants, ben ça ferait en sorte que ça ferait suer un peu Rolex. Donc, Rolex dit Julien Duguay vend des montres contrefaites et Julien Duguay réfute ça en disant ben eux, ils tentent de surveiller ce qui se passe avec leurs produits. Mais on voit ça avec des grandes compagnies américaines, là, t'sais, entre autres Mercedes. Là. J'ai un de mes chums que tu connais bien, Denis, qui s'est acheté une Mercedes assez rare Et il n'avait pas le droit de la vendre à Québec pendant un an ou un an et demi dans le contrat. Tu sais, ils surveillent leurs produits.
Oui, puis c'est normal aussi, mais qui croire dans cette histoire-là? Le tweet poudré du bateau ou la compagnie Rolex? Laisse-moi le temps de me faire une tête. Ah, c'est fait.
De mon côté, ça va être le juge.
Moi, de mon côté, mon idée est déjà faite, puis je pense que le juge, effectivement, je pense pas que ce soit un procès très long. Là.
Non, mais moi, tu gagnes plus cher que moi. Fait, je comprends que tu sois en moyen de payer des avocats. Moi, je vais attendre que le juge dise que c'est contrefait ou pas.
Moi, j'ai juste hâte de voir si, à un moment donné, le nom de la série va changer pour Fausse Rolex, de Homeless à Fausse Rolex. Dossier à suivre.
Laissez-moi attendre le juge aussi.
Est-ce que, puis on en parlait ce matin, Denis, mettons qu'on sort de l'histoire de Julien Méduza puis des influenceurs, là. Est-ce que de démontrer son argent au Québec t'attire les mauvaises langues? T'attire les gens qui sont jaloux, qui vont tenter de trouver et où l'arnaque? T'sais, comment ça que Maxime Larouche a autant d'argent dans ses poches?
Pas nécessairement. Tout est dans la façon de faire. Si tu te comportes comme un imbécile, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un bateau ou ailleurs, les gens vont te juger, évidemment. On juge les gens pour qui la seule valeur qui compte, c'est l'argent. Puis je pense que c'est très important de le faire. Puis c'est important d'avoir ces conversations-là avec nos jeunes aussi. Mais il y a un paquet de millionnaires, même de milliardaires, de qui on n'entend jamais parler. Il y a des gens fortunés autour de nous. Tu sais, Claude Meunier a donné des entrevues cet été. Je pense pas que personne soit jaloux de la richesse de Claude Meunier.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas de la riche. Il n'y a pas de la riche, Claude Meunier, mais combien de gens s'en prennent à Luc Poirier ou le gars qui fait du séjour sur 7 comme agriculteur?
Il est baveux. Il est baveux, Luc Poirier. Là, je veux dire, il récolte un peu. Quand tu sèmes des graines, maintenant, tu te fais répondre. Là,
François,
c'est normal.
François Lambert.
François Lambert, il veut rien que ça de l'attention depuis 15 ans. Là. Puis quand il y en a, il se met à broyer comme une madeleine. Je veux dire, les gens qui courent après l'attention, quand ils en ont, mais que c'est pas la bonne, dès qu'on le liche pas le cul, ça joue à victime. Ces gens-là sont sur les réseaux sociaux, sont partout dans les médias, puis ils étalent leur richesse. C'est sûr, ça écœure le monde. Il y a plein de gens qui le font discrètement. Il y a plein de gens qui aident la pauvreté discrètement. Je pense pas... Tu sais, les Trudel, ils ont de l'argent, là. J'ai vu à la maison l'autre fois dans le journal. Ils nous écœurent pas avec ça, les Trudel.
Yellowstone, tabarouette.
Ben oui!
Mais mon point est que quand tu fais de l'argent comme ça, en fait, ils font de l'argent comme de l'eau, là, t'es aussi bien de faire ça en toute discrétion parce que sinon, Revenu Québec va commencer à s'intéresser à toi.
Ben, aussi bien de faire ça en toute légalité, surtout.
Ouais, puis tu sais, je rejoins Pascal qui nous écrit par texto. Il a montré son argent et l'a surexposé de façon malhabile. Je suis très d'accord avec lui, là.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y a Luc Poirier se fait écœurer, épouvantable. François Lambert se fait écœurer. Comment il s'appelait? Alexandre Taillefer à l'époque?
Mais c'est pas des victimes. tu me nommes trois riches qui flashent leur argent, puis le troisième que t'as nommé, il était au crochet du gouvernement. Il investissait l'argent du gouvernement dans des flops, puis il investissait pas sa propre monnaie. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui se magasinent des claques, puis quand ils en reçoivent, ils pleurent. Moi, j'ai pas de sympathie pour les gens que tu viens de nommer. 0-0.
On a le même point, c'est que quand t'as de l'argent au Québec, prends pas le projecteur puis mets-le pas sur toi parce qu'il y a des gens qui vont commencer à s'intéresser à toi puis ça se peut que ça aille mal.
C'est ça. Reste discret. Hey, y a plein de riches au Québec qui sont discrets puis qui donnent des centaines de milliers de dollars, voire des millions aux universités auxquelles ils sont allés, à des organismes communautaires de leur coin. Ils veulent jamais qu'on nomme leur nom. Puis ces gens-là, ils n'en ont pas d'œil.
C'est arrivé à un de mes chums. De mes chums qui ouvertement là, t'sais, mentionne qu'il y a de l'argent, qu'il fait de l'argent, que ça va bien ses affaires. Ben, il a attiré les projecteurs sur lui, puis il y a eu une petite coche mal taillée, Denis, et là, il y a des gens qui en ont profité pour le ramasser comme pas possible. Mmh. Heureusement, il est sorti gagnant de cette aventure-là, mais il n'en demeure pas moins que quand tu mets les projecteurs sur toi puis tu montres que tu as de l'argent, ça intéresse beaucoup de monde.
Ouais, puis en même temps, ceux qui le font d'une bonne façon, ça tire pas le même nombre de foudres. Évidemment, il y aura toujours de la jalousie maladive, mais regardez les Tanguay dans la région de Québec. Tu sais, les Tanguay s'investissent dans beaucoup de projets sociaux, beaucoup de projets sportifs. Je pense que les Tanguay, c'est un nom qu'on entend beaucoup. Puis si tu mesures le pourcentage de hate que les Tanguay reçoivent versus un Luc Poirier ou un François Lambert, on n'est pas pareil pantoute dans la balance. Fait que moi, Yann, je te dirais, tout est dans la façon. Tout est dans la façon d'occuper le projecteur.
Merci, Denis.
Hey, à tantôt, 14h.
À tantôt, 14h. Bon week-end parce qu'on ne se croisera pas. Il est 8h23, Max. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent sur la route?
On va faire un petit rafraîchissement de page. Hey, ça a commencé. C'est la première affaire, je vais vous dire, un matin. Un petit ralentissement vers Ouest, hauteur Taniata.
Parfait. Yeah. En vol, les macadam. Connais-tu ça, toi?
Ben oui, je connais ça, certain. C'est pas mal ce qui close la saison des festivals.
C'est la 29e édition cette année. On est bien fiers d'être parmi les gens qui sont avec En vol, les macadam dans cette belle aventure-là depuis très longtemps. Ça va se tenir du 10 au 12 septembre prochain. C'est à l'Agora du Port de Québec. Et fidèle à sa mission, ben, En vol, les macadam va vous proposer 3 journées de musique alternative célébrant entre autres le punk, le hardcore, le metal et le ska. Au programme Bad Religion, quelque chose que j'écoutais au secondaire. Hatebreed, vous allez avoir Satanic Surfers, Teenage Bottle Rocket, oui. Les Ghouls, Horloge Chimar qui va être là, Vader, c'est plus de 30 artistes qui seront présents. Il y a plusieurs concerts qui vont être également offerts à l'Antibar et spectacles ainsi qu'au Scanner Bistro. Et la Source de la Martinière, ça fait un bout que j'ai pas été à la Source de la Martinière.
T'es allé une, deux fois, c'est à côté du Centre Vidéotron.
Oui, c'est très confortable une fois que t'es rendu à l'intérieur. Cette semaine, on veut savoir quelle band vous aimeriez aller voir à En vol et macadam. C'est assez simple, vous nous textez au 88-971-1021, 88-971-1021, le Ben que vous aimeriez aller voir. Et j'ai quelque chose pour vous, c'est une paire de passeports pour les 3 jours du festival. Donc 418-971-1021, 418-971-1021. C'est une présentation de Boulevard 1021. Merci beaucoup En vol et macadam de participer à cette belle aventure avec nous.
Pendant l'été, souvent ça nous tente pas